Julia avec vous sur Radio Rabelais pour la première de notre émission Intramuros, qui permettra tout au long de l'année de mieux connaître notre collège et ses activités. J'aurai tout d'abord le plaisir de recevoir Madame Emma Gognot, notre défenseur à l'antenne de la langue française et ses origines. Elle justifiera le nom de notre nouvelle émission Intramuros. J'aurai ensuite un invité prestigieux, François Rabelais, qui aidera nos auditeurs à comprendre pourquoi le collège de l'Escarène porte son nom. Et pour terminer, des élèves de 5e B du collège qui ont mené l'enquête sur l'œuvre de Rabelais subiront le feu de notre chroniqueuse littéraire Angelina. Madame Gognot, Intramuros, c'est le nom de notre nouvelle émission qui va permettre à nos auditeurs de voyager à l'intérieur des murs du collège pour savoir ce qui s'y passe. Mais c'est aussi une locution latine.
Oui, tout à fait, Julia. Par curiosité, j'ai tapé l'expression latine Intramuros sur un célèbre moteur de recherche et voici ce que j'y ai trouvé. Le nom d'une agence immobilière, d'un magazine sur le design ou encore le nom d'un quartier de Saint-Malo. Quel rapport entre les trois, me diriez-vous? Eh bien, le mot Murus. Ou murus. Le sens de ce mot semble assez clair. Il a donné le mot mur en français et les mots de la même famille, mural ou muraille. Mais le premier sens de ce mot ne renvoie pas au simple mur d'une maison, mais bien à ceux d'une ville. En cherchant dans le Gaffio, le dictionnaire de référence des latinistes, on trouve aussi la traduction rempart ou enceinte. Le murus latin est donc le mur qui protège la ville de l'extérieur et de ses ennemis. L'autre élément de cette expression est la préposition intra, qui signifie « en dedans », à l'intérieur d'eux. L'intramuros, forme à l'accusatif pluriel du mot « murus » pour les latinistes, désignait donc à l'origine l'intérieur d'une ville fortifiée. Ici, au collège François Rabelais, les remparts sont remplacés par les grillages et nos seuls assaillants sont les parents d'élèves. Nous sommes une cité fortifiée dont les habitants cherchent à s'échapper à tout prix, mais vers laquelle ils reviennent toujours. Je terminerai mon exposé en citant le très beau film de Laurent Canté qui narre le quotidien d'un jeune professeur de français dans un collège dit « difficile », toute ressemblance avec une situation réelle serait purement fortuite, et qui se nomme fort à propos « Entre les murs ». Bienvenue donc entre nos murs au collège François Rabelais.
Madame Gognot, merci pour cet éclairage passionnant de l'expression « intramuros » et à bientôt sur Radio Rabelais.
Avec plaisir.
Monsieur François Rabelais, bonjour.
Bonjour.
C'est un honneur de vous recevoir dans nos studios. Tous les collégiens de l'Escarène vous connaissent, puisque vous avez donné votre nom à notre établissement. François Rabelais, notre collège porte votre nom, parce que vous êtes originaire de l'Escarène ou des environs?
Je vais peut-être vous décevoir, mais ce n'est pas du tout la raison. Je suis né à Chinon, c'est dans la vallée de la Loire, et j'ai vécu en Poitou. J'ai beaucoup voyagé dans ma vie, surtout en France, mais aussi en Italie. Je suis donc peut-être passé par votre beau pays pour me rendre à Turin. Mais vous savez, mes souvenirs sont un peu confus puisqu'ils datent... C'était dans la France de François Ier.
Vous dites François Ier? Vous voulez dire que vous êtes né?
Je suis né en 1494.
Il y a donc plus de 500 ans?
Oui. Mon père était avocat et m'a fait éduquer selon les vieilles méthodes d'éducation héritées du Moyen-Âge. Je veux dire qu'on faisait surtout appel à cette époque-là à une mémoire mécanique. Nous apprenions tout par cœur sans vraiment faire appel à l'intelligence. Rien à voir avec les méthodes de la Renaissance, celles que j'ai prônées par la suite. Mais j'étais curieux, nous vivions une époque nouvelle, pleine de ferveur. Et la meilleure manière d'étudier a fait que c'est tout naturellement que je suis devenu moine.
Vous voulez dire que le collège porte le nom d'un moine?
Disons que... Enfin, cela m'a permis de beaucoup étudier le latin, le grec. J'ai rencontré de grands savants de l'époque, comme Guillaume Budet. Avec lui, j'ai traduit le second livre d'Hérodote. Mais cette langue, le grec, fut interdite. J'ai fait aussi du droit, défendu le droit des femmes, mais à l'époque, ce n'était pas très bien vu. J'ai quitté l'habit de moine, un peu trop solitaire pour un homme comme moi, et je suis donc devenu prêtre.
Moine ou prêtre, quelle différence?
Voyons. Un moine étudie en solitaire dans son monastère et reste coupé du monde, si on peut dire. Un prêtre, lui, va à la rencontre des autres. Mais n'insistez pas trop là-dessus. Je ne voudrais pas raviver des choses anciennes. Je me suis ensuite rendu à Montpellier pour apprendre la médecine.
Y avait-il beaucoup de moines qui étaient médecins ?
Pas vraiment. Parce que, voyez-vous, à l'époque, l'Église interdisait la dissection des corps. Mais il me fallait savoir, comprendre le fonctionnement du corps, connaître la science d'Hippocrate.
Vous avez donc pratiqué des...
Passons, si vous voulez bien. J'ai exercé la médecine une vingtaine d'années, à Lyon tout d'abord, à l'Hôtel Dieu, où j'étais responsable d'un établissement d'environ 200 patients, puis dans différentes villes françaises, et enfin à Turin et à Rome.
Vous ne seriez pas un peu rebelle ? Vous étudiez le grec quand c'est défendu, le droit des femmes avec plusieurs siècles d'avance, pratiquez la dissection ?
Rebelle, non. Curieux, insatiable, oui. La vie est si courte et il y a tant à découvrir.
C'est une vie bien remplie et passionnante. Mais pourquoi un médecin a-t-il donné son nom à notre collège ?
Mais enfin, jeune fille, je n'ai pas été que médecin. J'ai tout de même écrit au moins 4 des plus grands romans français.
Vous êtes moine, prêtre, juriste, médecin ou écrivain ?
Mais voyons, tout cela en même temps. Cessez de mettre les gens dans des petites cases, étroites, étanches. Les sciences ne sont pas cloisonnées. Toutes méritent notre attention. La littérature est un instrument de connaissance comme la chirurgie ou le droit.
Mais comment peut-on s'intéresser à tant de domaines à la fois ?
Mais voyez-vous, je le répète, l'époque de la Renaissance fut une époque d'ouverture. Le XVIe siècle, c'était comme une nouvelle naissance. Le Moyen-Âge avait fait son temps. Nous retrouvions l'ardeur de l'Antiquité. Nous héritions d'un monde nouveau. On venait de découvrir l'Amérique. Magellan faisait le premier tour du monde. Gutenberg diffusait le savoir grâce à l'imprimerie. Ambroise Paré découvrait la circulation du sang. Et Copernic...
Quel mot définirait le mieux alors ?
Vous recommencez. Vous voulez me mettre à tout prix dans une case, une définition. Je suis un humaniste, un homme d'appétit, de savoir, un philosophe de la vie. Rien de ce qui est humain ne doit nous être inconnu. J'ai foi dans l'humanité et comme je l'ai écrit, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Voilà ce que je suis, un humaniste.
Merci Monsieur François Rabelais d'avoir été notre invité. Je rappelle que notre collège et notre radio portent votre nom. J'espère que vous ferez la joie de revenir dans nos studios.
Certes, si le mot joie est au rendez-vous, ainsi que le mot rire, car j'ai été un peu trop sérieux, me semble-t-il. Et n'oubliez pas que c'est moi qui ai écrit « Le rire est le propre de l'homme ».
Intramuros qui continue avec Julia sur Radio Rabelais. Une petite pause musicale pour souffler. Un hommage à Joachim du Bellay, un poète du XVIe siècle qu'a bien connu François Rabelais. Écoutons Ulysse de Ridan.
Fait un beau voyage, ou comme c'est celui-là, quiconque il a toison, et puis y retourner plein d'usage et raison, vivre entre ses parents le reste de son âge. Quand reverrai-je, hélas, de mon petit village, fumer la cheminée, et en quelle saison, verrai-je le clan? Je fumais la cheminée et en quelle saison, mais quand reverrai-je? Mais quand reverrai-je de mon petit village? Je fumais la cheminée et en quelle saison, mais quand reverrai-je? Quand reverrai-je? Reverrai-je le clos de ma pauvre maison? Qui m'est une province et beaucoup d'avantages. Plus me plaît le séjour qu'ont bâti mes aïeux que des palais romains, le front audacieux. Plus que le marbre dur me plaît l'ardoise fine, plus mon Loire gaulois que que le tibre latin. Plus mon petit lirait que le mont palatin, et plus que l'air marin, la douceur angevine. Mais quand reverrai-je de mon petit village fumer la cheminée, et en quelle saison? Mais quand reverrai-je? Je fumais la cheminée, et en quelle saison? Mais quand reverrai-je? Quand reverrai-je? J'ai traversé les mers à la force de mes bras, seul contre les dieux, perdu dans les marais, retranché dans une cale, et mes vieux tympans percés pour ne plus jamais entendre les sirènes et leurs voix. Nos vies sont une guerre où il ne tient qu'à nous de nous soucier de nos sorts, de trouver le bon choix, de nous méfier de nos pas et de toute cette eau qui dort, qui pollue nos chemins, soi-disant pavés d'or. Mais quand reverrai-je de mon petit village fumer la cheminée? Et en quelle saison? Mais quand reverrai-je? Mais quand reverrai-je de mon petit village fumer la cheminée? Et en quelle saison? Mais quand reverrai-je?
Intramuros sur Radio Rabelais. Nous poursuivons l'émission spéciale sur François Rabelais avec notre chroniqueuse littéraire Angelina. Angelina, bonjour.
Bonjour Julia.
Je te cède la parole, Angelina, pour interroger Camille, Armel et Carla, élèves de 5e B, au sujet de l'enquête qu'elles ont menée sur l'œuvre de François Rabelais.
Merci Julia. Camille, François Rabelais est-il un auteur prolixe qui a beaucoup écrit?
Non, pas du tout. Il n'a écrit que 4 livres, peut-être 5 avec le 5e livre, s'il en est l'auteur. Pourtant, ses livres auront une grande influence sur de nombreux écrivains et certains pensent même qu'il est l'inventeur du roman français moderne.
Armel, n'y avait-il pas au Moyen-Âge déjà des romans?
Bien sûr. On pense au roman de la chevalerie de Chrétien de Troyes, au roman de Renard écrit au XIIe siècle. Ces textes en ancien français, ou roman, étaient écrits en vers, en octosyllabes, donc assez loin de ce que nous entendons, nous, modernes, par roman.
Alors pourquoi les a-t-on appelés romans?
Parce qu'ils ont eu tant de succès que le mot roman n'a plus signifié la langue dans laquelle ils étaient écrits, mais un genre littéraire nouveau, un récit mêlant des aventures amoureuses et guerrières.
En quoi Rabelais serait-il alors l'inventeur du roman moderne?
D'abord, par sa forme. Ses livres sont écrits en prose dans un français du XVIe siècle, que nous pouvons lire sans traduction, même si la langue est un peu difficile pour les collégiens. Puis, par la richesse de son vocabulaire.
Camille, les sujets des livres de Rabelais sont-ils si différents de ceux qui s'écrivaient au Moyen-Âge?
Les thèmes ne sont pas totalement nouveaux. Il s'est d'ailleurs inspiré pour son premier livre, Pantagruel, d'un livre existant. Il y raconte les prouesses d'un géant comme il y en a tant dans la littérature médiévale. Gargantua, son deuxième livre, est l'histoire du père de Pantagruel, lui aussi un géant.
Est-ce donc l'humour qui en fait la nouveauté?
Attention à l'erreur de croire que la Renaissance a tout inventé et que le Moyen-Âge n'est qu'une période obscure. Les fabliaux que nous étudions en 5e étaient déjà des petits textes pleins de dérision critique, on se moquait gentiment des travers de la société de l'époque. La cupidité des curés, la crédulité des paysans, et le roman de Renard se moquait lui-même des romans de chevalerie. Enfin, le théâtre médiéval connaissait la farce, un théâtre comique.
Alors en quoi Rabelais est-il un romancier moderne?
Il invente la liberté de l'écriture en mêlant toujours une grande imagination, une fantaisie débridée, un grand réalisme de détails et une accumulation d'inventions amusantes. Il fait passer ses idées pacifistes en n'oubliant jamais de faire rire, et cela avec une grande créativité verbale.
Une pause musicale dans Intramuros avec Zaz, une chanteuse éprise de la liberté comme François Rabelais.
Parce qu'après tout ça, on a besoin de beaucoup, beaucoup de douceur. Il est parfois difficile de la trouver, mais elle est en chacun de nous, bien là. De la tendresse, de la douceur, de la bienveillance. Le monde a besoin de tout ça. Cette paix qu'on cherche tant dans le monde, il faudrait déjà qu'on arrive à la trouver en nous-mêmes.
Julia de retour avec vous dans Intramuros sur Radio Rabelais avec Angelina et ses invités.
Armel, on parle de la langue de Rabelais ?
On parle de verbe rabelaisienne car il mime toutes les langues. La plus érudite et la plus grossière, la médiévale et la moderne. Il utilise les patois provinciaux et le vocabulaire spécifique d'une profession. Il se permet tous les comiques, la caricature, les calembours, la comédie la plus fine mais aussi la plus lourde jusqu'à la grossièreté. Comme dans le fameux texte « La meilleure manière de se torcher le cul ».
Camille, le français moderne lui doit-il beaucoup ?
C'est le premier utilisateur des mots automate, quintessence, substantifique moelle. Nous lui devons aussi les expressions « être comme un mouton de panurge », »,« une corne d'abondance », »,« l'appétit vient en mangeant », »,« faire un repas pantagruélique » et « baritonner du cul ».
Son amour de la bonne chair et du vin, qu'il exalte dans tous ses livres, ne sont peut-être pas étrangers à l'amour que portent les Français à François Rabelais. Écoutons, par la voix de Carla, deux extraits de la prose de Rabelais. Nous avons choisi en premier la naissance du géant Gargantua.
Bangousier, buvant et s'amusant avec les autres, entendit le cri horrible que son fils avait fait en voyant le jour en ce monde. Quand il avait bramé en demandant « à boire, à boire, à boire !» sa réaction fut « que grand tu as !» sous-entendant la gorge. En entendant cela, les assistants dirent que vraiment il devait avoir pour cela le nom Gargantua, puisque tel avait été.
Dans le deuxième extrait, celui des moutons de Panurge, tiré du quart livre, Panurge veut donner une leçon à un marchand mesquin à qui il achète un mouton qu'il paye très cher.
Soudain, je ne sais comment la chose arriva si vite, je n'eus le loisir de le considérer. Panurge, sans dire autre chose, jette en pleine mer son mouton, criant et bêlant. Tous les autres moutons, criant et bêlant avec la même intonation, commencèrent à se jeter et sauter en mer à la file. C'était à qui sauterait le premier après leurs compagnons. Il n'était pas possible de les empêcher. Comme vous connaissez le naturel du mouton, qui est de toujours suivre le premier en quelques endroits qu'il aille. Aristote le dit aussi au 9e livre de l'Histoire des animaux. C'est l'animal le plus inepte du monde. Le marchand, tout effrayé de ce que devant ses yeux, il voyait périr et noyer ses moutons, s'efforçait de les en empêcher et de les retenir autant qu'il le pouvait. Mais c'était en vain. Finalement, il en prit un, grand et fort, par la toison, sur le tillac du navire, pensant ainsi le retenir et conséquemment sauver le reste aussi. Mais le mouton fut si puissant qu'il emporta dans la mer avec lui le marchand qui se noya de la même façon que les moutons.
Nous terminons cette émission consacrée à François Rabelais avec les moutons de Panurge. Un grand merci à Angelina et ses invités, Armel, Camille et Carla. A bientôt sur Radio Rabelais pour un prochain numéro d'Intramuros.